Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. C'est le moment de retrouver donc le porte-parole de la Confédération paysanne PACA, Yannick Becker, accompagné de Manfred Thiollier, secrétaire de la Confédération paysanne. Manfred ?
Co-secrétaire.
Co-secrétaire, voilà. Bienvenue à tous les deux. Donc, on va parler évidemment de la situation actuelle avec cette maladie, la dermatose nodulaire, savoir exactement ce que ça veut dire, et puis tout ce qui va avec dans la situation actuelle. Qui prend la parole ?
Je vais juste commencer. D'abord, bonjour et merci de nous recevoir, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que sur les médias, il y a une parole relativement unique et relativement d'ailleurs silencieuse sur ce qui se passe. Ne serait-ce que ce matin sur France Inter, où il y avait vraiment une toute petite parole de quelques secondes, alors que c'est un drame complètement qui se passe dans nos élevages. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que franchement, il faut qu'on ait tous une pensée pour ces éleveurs qui se retrouvent aujourd'hui dans des conditions épouvantables, avec une étable sans bête, sans bruit, dans un silence terrible, et des gens qui sont vraiment déprimés. Et déjà que la situation actuelle dans l'agriculture est compliquée, venir ajouter cet abattage massif et certainement relativement injustifié dans beaucoup de cas. Donc vraiment une pensée pour ces personnes-là, et on est vraiment solidaires de tous ces éleveurs. Voilà. Et donc je laisse la parole à Yannick.
Peut-être on peut reprendre de zéro pour nos auditeurs pour expliquer cette maladie, d'où elle vient. Donc en fait c'est un virus un peu type variole, si on veut comparer aux maladies humaines, et qui vient donc des pays tropicaux, enfin des pays du sud. Une maladie importée, puisque elle se transmet par un vecteur qui sont les insectes piqueurs. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas faire des milliers de kilomètres. Donc c'est bien des bêtes infectées qui ont été importées. Alors il n'y a pas de... Personne n'est ciblé en termes de responsabilité, puisque actuellement, les bêtes circulent et de tout temps, elles ont circulé. Alors maintenant, ça s'accélère et il y en a de plus en plus, mais c'est un fait auquel on ne peut pas se soustraire. Alors bon, les chiffres, ils se rejoignent plus ou moins, c'est-à-dire sur un peuplement qui ne serait pas du tout traité ou accompagné. La mortalité, elle aussi, entre 5 et 10%. Et la morbidité, c'est-à-dire l'expression de la maladie, s'exprime entre 30 et 50%. Donc voilà, si on a un tel nombre d'animaux qui est en présence de la maladie, il y a un risque effectivement de grosse mortalité, enfin au niveau national, hein, parce que ça resterait quand même 10%, c'est quand même énorme. Et il y a un fort risque de perte ou de grosse souffrance pour les animaux aussi, puisque s'il y a, mettons, en poussant les curseurs au maximum, 50%, ça fait énormément de bêtes. Mais ça, c'est pour un troupeau qui serait pas, enfin, ou un cheptel qui serait pas accompagné. Alors, la maladie est réglementée au niveau international et au niveau européen. Au niveau européen, elle est en catégorie A, ce qui implique un protocole sanitaire strict visant à éradiquer la maladie. Sachant que ce protocole strict n'est pas dicté dans l'ensemble de ces éléments par l'Europe, mais chaque pays a la liberté des moyens à mettre en œuvre pour éradiquer cette maladie. Dans ce cas-là, parce que la maladie a émergé au début de l'été en Savoie, premier cas en début juillet, la France, appuyée par la FNSEA et les GIA, ont poussé pour le protocole d'abattage total. Donc on élimine le lot, donc pas forcément toutes les bêtes de la ferme, mais le lot, c'est-à-dire le troupeau, toutes les bêtes qui sont ensemble, donc on les abat. Et on pose un périmètre réglementé de 50 km autour de la ferme où on vaccine et où on interdit les déplacements d'animaux. Ça, c'était depuis début juillet et aujourd'hui, on en a rendu début décembre. Et on en est à 3000 bêtes abattues, plus d'une centaine de foyers, avec des énormes sauts de la maladie, puisque les derniers... les derniers, tout juste là, ça reste dans l'Aude, etc. Mais on en a eu une résurgence dans le Doubs sur un troupeau qui a été vacciné et qui avait fini sa période d'incubation, qui était en protection. Et puis d'un coup, une semaine plus tard, c'était en Ariège, dans une zone non réglementée. Donc les deux étaient dans des zones non réglementées. Et voilà. Donc là, actuellement, on a l'impression que l'épidémie devient presque hors de contrôle. En tout cas, on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Nous, globalement, on est... Alors, il y a des faits scientifiques. Ce que j'entends dire, et notamment la FNSEA et le gouvernement qui ont à peu près les mêmes éléments de langage et qui veulent lutter contre la désinformation. Donc tout ce que je viens de dire, nous avons pu le vérifier parce qu'on l'a exposé face aux services préfectoraux, puisqu'on a rencontré la préfète vendredi dernier. Il y avait les services vétérinaires, il y avait la direction de protection des populations. Donc ça, c'est des faits. Et ensuite, nous, ce que nous proposons, c'est un protocole alternatif, c'est-à-dire pas celui actuel, qui permettrait non seulement de préserver les éleveurs et les élevages, mais aussi de pouvoir mettre la maladie sous contrôle, c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas aux chiffres dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire les 10% de mortalité ou les 40% de bêtes malades, parce que c'est évidemment pas notre objectif.
Alors qu'est-ce que c'est que ce protocole alternatif qui permettrait de...
Alors, ça a été élaboré, alors là, on peut le reconnaître, c'était en Ariège, donc suite à ce cas incompréhensible aussi, hein, parce que dans le Doubs, c'était un troupeau vacciné, là, c'était un troupeau qui n'avait pas eu du tout de mouvement et qui était enfermé. Donc, du coup, on soutient même des troupeaux qui sont presque hors sol, mais voilà, on ne sait pas comment il est venu. Et là, il y a eu tous les syndicats avec la Chambre qui se sont réunis et qui ont réussi à se mettre d'accord sur un protocole différent. Et ce protocole différent qui a été expérimenté à La Réunion il y a une vingtaine d'années, je crois, et puis qui a été aussi mis en œuvre en Turquie, c'est l'abattage partiel. Donc on abat que les bêtes qui présentent des symptômes. Et ensuite on met le troupeau sous cloche et on fait un suivi sanitaire, alors jour après jour ou tous les deux jours. Enfin, on fait un suivi sanitaire de ce troupeau et on élargit la zone vaccinale. Vacciner toute la France, effectivement, c'est impossible, on n'a pas les doses, et ça prendrait presque un an, avec le cheptel qu'il y a. Mais on élargit la zone vaccinale, on se cantonne pas à 50 km, on élargit au département, voire au département voisin, histoire de pouvoir être en avance sur la progression de la maladie, puisque l'immunité, après la vaccination, prend une vingtaine de jours. Donc même une fois qu'on a vacciné, on reste encore sur les braises, de savoir si la maladie va se déclarer ou pas, et avec l'épée de Damoclès de ce dépeuplement, drôle de syllogisme, pour dire qu'on va abattre toutes les bêtes, y compris les saines. Voilà. Juste ce que je voulais dire, revenir sur le Doubs et sur l'Ariège, ces deux cas emblématiques par rapport à l'utilisation des forces de l'ordre, parce que...
C'était plutôt violent, hein. On peut dire que c'était assez atroce, comme une guerre...
Alors il y a eu beaucoup de monde sur place, parce que ça commence à devenir un peu éruptif de la part des éleveurs. Alors bon, on dit que c'est politisé, c'est vrai qu'il n'y a que deux syndicats sur les quatre qui sont mobilisés, mais il y a aussi beaucoup d'éleveurs non syndiqués qui viennent pour protéger leurs collègues. Et c'est pas d'être contre le protocole sanitaire et c'est pas de l'irresponsabilité. Là, dans le cas du Doubs, il y avait un référé qui était en cours, pour examiner la légalité de ce cas-là, parce que c'était un cas de DNC sur un troupeau vacciné, donc il fallait en savoir un peu plus. Donc il aurait fallu attendre 3 ou 4 heures. Et alors du coup, bon, il y avait beaucoup de monde sur place, donc effectivement, la force publique a déployé des forces de l'ordre pour faire appliquer la loi, c'est comme ça. Mais l'ordre a été donné d'abattre avant même le résultat du référé. Et en Ariège, il y avait ce protocole qui avait été élaboré. Donc il y avait aussi un blocage assez impressionnant avec pas mal de monde et des machines, du matériel autour. Le protocole avait été élaboré. On attendait une réponse de la ministre. Ça aurait peut-être été bien d'avoir une réponse, que ce soit oui ou non, mais avant l'intervention. Donc dans les deux cas, l'intervention des forces... Le déclenchement de l'abattage et donc l'intervention des forces de l'ordre a été fait avant toute concertation. Ça, c'est quand même, c'est quand même extrêmement dérangeant et c'est un peu comme si on voulait avoir des images et puis décrédibiliser la mobilisation. Donc, ce protocole, normalement, de ce qui remonte du terrain. Donc ça, c'est voilà, une boucle avec qui on est, enfin, avec plein d'éleveurs qui sont sur place, dans des zones touchées, dans des zones pas touchées, qui sont sur les blocages ou qui sont sur les fermes. A priori, les derniers rendez-vous avec les services de l'État, ils semblent assez fébriles. Alors, pour quelles raisons ? Soit c'est parce que la crise leur échappe au niveau des actions, soit la crise leur échappe au niveau sanitaire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle ne leur échappe pas et qu'elle ne nous échappe pas au niveau sanitaire. Parce qu'on a quand même bien pointé du doigt le risque de sous-déclaration. Et on cible personne, hein. C'est compréhensible, mais que lorsqu'on risque de se faire abattre l'ensemble de son troupeau, malgré les appels à la responsabilité des uns et des autres, on peut comprendre qu'à un moment donné, on le passe sous silence. Et ça, c'est un gros risque, effectivement, de propagation de la maladie. Ça peut se comprendre, parce qu'en ce moment, les éleveurs, je crois, ils ont plus peur de l'État que de la maladie. Et il y a le deuxième risque qui est d'explosion de la maladie au printemps. Parce qu'en ce moment, en hiver, on peut bien le comprendre, les insectes piqueurs, ils sont endormis. Et c'est une des raisons du calme en Savoie. Il y a eu effectivement le protocole qui a aussi, on ne peut pas le nier, une certaine efficacité malgré sa violence. Mais c'est aussi surtout oublier qu'en Savoie, c'est de la haute montagne. Enfin, il y a aussi des vallées, mais que la plupart des insectes, ils sont endormis en ce moment. Donc il y a des gros risques. Donc là, on attend l'examen de la ministre de ce nouveau protocole et de voir qu'est-ce qu'elle va bien vouloir nous annoncer. A priori, je pense qu'ils sont assez OK pour élargir la zone vaccinale. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir passer Noël un peu plus tranquille et qu'ils puissent accepter l'abattage partiel, c'est-à-dire l'abattage que des bêtes exprimant la maladie. Ce qu'on peut rajouter pour pouvoir compléter l'analyse de cette crise sanitaire, c'est que, comme je disais, c'est plus une gestion commerciale que sanitaire de la crise. Parce qu'effectivement, du côté, si on regarde au niveau des bêtes, etc., oui, il faut contrer la propagation de ce virus. Mais l'histoire de la catégorie A et de la catégorie C, c'est simplement une histoire d'exportation. Si, il faut que le pays soit réputé indemne pour pouvoir continuer à exporter nos bovins. Alors c'est vrai qu'on exporte des bovins vivants vers l'Italie, vers l'Espagne. Je ne sais plus combien c'est, 1,5 million de bovins chaque année. Et si la France, par exemple, si on étendait la vaccination à toute la France ne serait plus catégorisée indemne pendant 14 mois, le temps que l'immunité se fasse. Et les services vétérinaires nous ont dit il faudrait 12 mois pour effectuer cette vaccination. Donc pendant 2 ans et demi, on n'exporterait plus, donc ça pourrait poser un problème. Ce qui est clair, que ça poserait un problème à beaucoup de nos collègues éleveurs qui exportent. Ça n'empêche que pendant ce temps-là, la France peut faire, parce qu'on ne l'a pas vu faire beaucoup de démarches diplomatiques pour aller vers l'Europe, parce qu'il y a vraiment des arguments pour déclasser cette maladie en catégorie C, puisqu'on a d'autres épizooties comme la fièvre catarrhale ovine et autres qui sont parfois plus graves et qui sont classées en catégorie C. Donc il y aurait quand même moyen, avant ces 2 ans, le terme de ces 2 ans, de pouvoir continuer à exporter. Et même si elle reste classée en catégorie A, ça existe déjà. On peut avoir des protocoles dérogatoires avec ces pays-là, donc juste de pays à pays, avec l'Espagne, avec l'Italie, pour pouvoir exporter quand même des animaux vaccinés et sains. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Mais ce qui est avancé, c'est de garder la France indemne pour pouvoir continuer à exporter.
Par rapport aux abattages... Oui, parce qu'il y a eu aussi des vétérinaires qui ont été radiés de l'ordre des vétérinaires par rapport à l'euthanasie des bêtes.
Sur ce point-là, les vétérinaires... il y a des vétérinaires... on ne peut pas les radier de l'ordre... alors c'est le conseil de l'ordre des vétérinaires qui doit se pencher dessus. Et je pense que c'est des cas spécifiques où lorsqu'on a manqué à la charte de vétérinaire. Donc on ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est quand même extrêmement dur pour les vétérinaires de faire ça. Parce qu'ils doivent le faire aussi parfois sur des fermes parce que les animaux, ils ne sont pas sauvables. Hein. Et je crois que c'est l'acte le plus dur à faire pour un vétérinaire. Donc je ne pense pas qu'il y en ait qui le fassent de gaieté de cœur. Après, chacun a ses convictions. Et je peux comprendre qu'il y ait certains... Moi, j'ai entendu une représentante ce matin sur France Culture qui disait « Mais c'est dur, c'est extrêmement malheureux, mais c'est ce qu'il faut faire ». Mais au-delà de ça, Les vétérinaires, ils obéissent je sais pas s'ils sont réquisitionnés, mais ce sont des vétérinaires ruraux et qui ont un agrément sanitaire. Donc c'est pas, ils sont pas radiés de l'ordre des vétérinaires, mais ils risquent de perdre leur agrément de vétérinaire rural, notamment pour faire le suivi des troupeaux en règle générale. Et on en manque des vétérinaires ruraux. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas du tout mettre la pierre et le poids sur les vétérinaires lorsqu'ils interviennent. C'est déjà suffisamment dur pour eux pour ne pas en rajouter. C'est comme les forces de l'ordre, hein, ils sont aux ordres. Hein. Ils sont aux ordres de ce que décide le préfet du département et le préfet est sous les ordres du gouvernement. Donc voilà, qu'il y en ait, qu'il n'ait pas voulu le faire, à mon avis, c'est fort possible qu'ils aient eu des punitions. Je pense que, à mon avis, c'est... De toute façon, ce n'est pas dans notre domaine. Mmh. C'est de la même manière que... Et voilà, il y a ça, je pense que c'est assez certain, il y a des pressions exercées sur les éleveurs s'ils disent oui ou non, je veux pas abattre. En fait, ils n'ont pas le choix. C'est un arrêté. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas à dire oui ou ils n'ont pas à dire non. Ils n'ont pas le choix. C'est juste quand on discute avec eux, nous, syndicats ou groupements d'éleveurs pour venir les défendre, on vient bloquer la ferme ou on vient les soutenir que s'ils le veulent. S'ils ne le veulent pas, on ne va pas le faire contre leur gré. Donc voilà, je pense que là, chacun doit rester un peu dans son couloir, même s'il faut discuter.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer enfin, vous êtes en attente donc, d'une réponse du ministre ?
Oui, on attend de voir qu'est-ce qu'elle va dire. Alors, je ne sais pas si c'est toujours difficile de savoir où vont les ministres et quand. Mais bon, voilà, les rumeurs circulent comme quoi elle va se déplacer en Occitanie aujourd'hui ou demain. Donc on attend de voir qu'est-ce qu'elle va dire. Parce que là, entre-temps, depuis le Doubs et l'Ariège, il y a eu de nouveau 5 cas déclarés dans l'Aude, en Haute-Garonne. Alors des troupeaux plus ou moins gros. Donc il n'y a pas vraiment de typologie de troupeaux qui sont touchés. Là, il y en a un, c'est des petits vieux qui ont eu, qu'il y avait 15 vaches, qui n'ont eu aucun mouvement, etc. Donc c'est compliqué de le savoir. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Il y a aussi une bataille, on va dire, médiatique pour essayer de faire valoir notre façon de voir la chose, mais aussi pour dire qu'on n'est pas des complotistes et on s'appuie sur des éléments concrets. Moi, j'ai remis à la DDCSPP l'analyse du règlement européen et national que nous avions faite et sur laquelle nous nous basons pour faire ces propositions. Et je lui ai dit, tenez-moi au courant si on s'est trompé. Bon, pour l'instant, elle ne m'a pas appelé. Donc je pense qu'on essaye de rester prudent dans nos propositions. Il n'y a pas d'excès. Il y a des excès sur le terrain parce que c'est quand même assez épidermique. Donc il y a beaucoup de monde et puis il peut y avoir des débordements. Mais ça c'est complètement compréhensible. Mais sur les revendications et sur ce qu'on demande, je pense qu'on est complètement posé et que c'est entendable.
En tout cas, par rapport à la vaccination de tous les bovins, ce n'est pas quelque chose qui est possible, quoi.
À l'heure actuelle, il faudrait 12 mois pour vacciner l'ensemble de la France. En plus, il n'y a pas les doses. Il n'y a pas le truc, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de vaches. Par contre, une vaccination élargie, ça resterait possible. Et un des avantages de l'abattage ciblé, ça permettrait aussi d'avoir des informations sur l'évolution de la maladie. C'est-à-dire sur des vaches qui restent saines dans un troupeau infecté. Enfin, on le sait tous, l'immunité acquise est plus forte que l'immunité qu'on apporte avec un vaccin. Et donc, lorsqu'on abat un troupeau entier, on abat aussi les vaches résistantes. Et l'idée d'éradiquer une maladie, je pense que c'est une illusion. C'est des maladies avec lesquelles il faudra vivre. Comme le Covid-19, il est encore là actuellement, mais en fait, on s'est adapté, puisque le virus est vivant, mais en face, il a des animaux, des êtres vivants aussi qui s'adaptent. Et nous, un peu, c'est ce qu'on déplore aussi. C'est que, alors évidemment, c'est très récent, c'est le mois de juillet, mais on manque de connaissances sur la maladie proprement dite et son évolution par rapport au troupeau. Ça a été le cas l'année dernière avec la fièvre catarrhale ovine. Alors, il n'y avait pas d'abattage, mais... On s'est pas penché sur les différentes réactions des troupeaux. Il y a des troupeaux qui ont été très, très peu touchés et qui étaient voisins avec des troupeaux qui ont eu beaucoup de problèmes. Et c'est pas dire il y en a un qui a bien bossé, l'autre qui a mal bossé. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il y a rien du tout qui est déployé là-dessus. Et en éradiquant les troupeaux, on n'arrivera pas à suivre. On n'arrivera pas à avoir d'informations. On restera. Bah, parfois, j'ai dit, bon, c'est une comparaison un peu excessive, mais ça me rappelle la gestion de la peste où on clouait les portes et on mettait le feu à la maison, quoi. Mmh. C'est un peu médiéval comme façon de faire. Après, il y a aussi un... Alors là, j'étais assez content parce que j'avais fait une estimation de combien du coût de cette politique. Je ne parle pas du coût humain, parce que ça, ce n'est pas mesurable. Mais alors, l'indemnisation des bêtes, parce que les paysans, les éleveurs, ils sont indemnisés pour le capital, c'est-à-dire la perte des bêtes, et indemnisés pour le revenu. Pour le capital, moi, j'étais à peu près à 30 millions d'euros. Là, la DDCSPP nous a répondu, bah oui, là, en ce moment, on est à 6 millions d'euros, mais il y a encore 49 dossiers. Donc voilà, ouais. À vue de nez, on est aux 30 millions d'euros. Et on n'a pas mis dedans le coût des forces de l'ordre et le coût de l'écarissage. Et on n'a pas non plus dedans anticipé les abattages qui pourraient, on ne souhaite pas, mais se poursuivre. Donc il y aurait peut-être mieux à faire avec cet argent-là, en abattant ciblé, de manière ciblée et en réduisant l'exportation. Bah, oui, effectivement, il y aurait aussi des indemnités à verser. Mais elle serait plutôt pour préserver le vivant plutôt que pour l'éradiquer. Quoi.
Manfred, quelque chose à rajouter ?
En attendant, cet abattage massif, en fait, total, révolte aussi la société civile. Et on l'a bien vu lorsqu'on était sur les ronds-points, que ce soit sur le 05 ou à Sisteron, vendredi dernier. On a bien vu que 2 personnes sur 3, les voitures qu'on arrêtait ou qui s'arrêtaient d'elles-mêmes d'ailleurs pour soutenir... Et pour nous dire que vraiment, c'était scandaleux. Voilà, donc il y a quand même une prise de conscience. Alors c'est vrai qu'il y a tous ces éléments que vient de rappeler Yannick qui sont à prendre en compte. Mais suivant les annonces de la ministre, je ne sais pas si ces foyers ne vont pas se développer de manière encore plus forte. Quoi. Voilà.
Donc nous, on est dans les clous pour jeudi. On verra, suivant les annonces de la ministre, s'il faudra ressortir ou pas. Mais là, cette fois-ci, on appellera aussi, effectivement, les citoyens. Et c'est bien, parce que sur ces lieux, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre et d'information. Et de réinformation, on va dire. Parce que, voilà, quand on n'est pas dans la crise, on écoute un peu beaucoup de choses, mais ça permet d'apporter nos informations, mais aussi parfois, donc, on lutte des deux côtés. Hein, on lutte du côté des fantasmes qui peuvent se propager sur Internet. Et puis, on essaie d'apporter aussi l'éclairage que j'ai apporté aujourd'hui par rapport à la politique du gouvernement où tout n'est pas dit, notamment au niveau économique. Quoi.
Voilà. Je vous remercie. Merci Yannick Becker, merci Manfred Thiollier. Et à bientôt sur notre antenne.
À bientôt.
Au revoir.
Pour de meilleures choses. Au revoir.
Fréquence Mistral, c'est Moni, extrait du nouvel album Love, Tears and Gun de Malted Milk.
Stories, now they're growing old. Time is flying, still we ain't seen no change. People are restless in a world without no goal. Use yourself,
while you're giving her the blame. Should give my peace, better not waffle just chains. Lie to teach, planting seeds in them young heads. There's still the time, they don't know no better. Everybody's got to win the race. Got to get the money, that money. You're all cold out before you catch your pace. Got to get the money, that money. We're born to lose, keep playing their games. Think you choose, but you ain't never got the name. Break the rules, get a number on your back. You try to move, and you know that don't like that.